Voilà, bonjour à chacun et à chacune pour ce temps. C'est donc un culte prière, donc on aura un petit accent de prière pendant ce temps. On arrive, c'est vrai, dans des temps où il y a beaucoup qui va se passer. Beaucoup, on va être un petit peu dans ce temps où c'est qu'on court énormément avant Noël. Alors que Jésus nous invite, lui, à trouver le repos en lui. Et peut-être que dans ces temps, il y a l'espoir, en tout cas de nos petits-enfants, mais peut-être de nous aussi en tant qu'adultes, de recevoir un cadeau spécial cette année. Qui sait ? Et la Bible nous parle beaucoup d'espérance, d'espoir. Et lorsque la Bible nous parle de ça, c'est pas toujours de souhaiter quelque chose d'agréable pour soi-même, ce que Noël est en général, on aime bien offrir aussi, hein, mais souvent c'est quelque chose, on se réjouit, en tout cas nos petits-enfants se réjouissent de recevoir quelque chose pour eux, hein, mais c'est de croire dans cet espoir que Dieu fera ce qu'il dit, même si on ne le voit pas encore. Alors ça, on peut peut-être lancer le PowerPoint. Merci beaucoup. Donc j'ai intitulé ce temps « Espérance pour le monde ». Et j'aimerais juste lire le passage dans lequel le verset qui est là, Matthieu 12, 21, se trouve, juste pour le mettre un peu dans son contexte. Vous verrez que c'est un contexte assez incroyable d'ailleurs. Voilà, les pharisiens, c'est donc depuis le verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Parfois, quand il y a beaucoup de stress, de confrontation, de gens qui sont contre nous, il y a des fois où Jésus les a confrontés, puis il y a des fois où Jésus, il est parti. Il est parti du stress, en fait. Et je trouve des fois, c'est incroyable. Il s'éloigna de ce lieu. Mais voilà qu'une grande foule qui le suit. Et il est dit qu'il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Et s'il y a un temps peut-être dans lequel on vit, où la justice a besoin d'être annoncée aux nations. C'est bien, je pense, en tout cas cette saison qu'on vit, hein, dans le monde. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et on vient de chanter, de prendre la communion aussi, puis de chanter ces chants sur comme un focus sur la croix. Et c'est là, hein, que tout se passe, de manière incroyable, avec la résurrection qui a suivi. Et puis, une fois qu'il y a tout ça qui est dit, il y a cette petite phrase, « Et les nations espéreront en son nom. » Waouh ! Il a fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on va lire, hein, que Dieu promet un Messie ou un Sauveur qui va venir. Ce Messie, il viendra sauver le peuple, apporter la paix, la justice pour toujours. On arrive dans Luc, on lit que Jésus, le Messie, est né. Là, je fais un film qui va très vite. Hein, et que c'était une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Et aujourd'hui, la réalité, ou je dirais plutôt « mais aujourd'hui », la réalité, c'est que plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas entendu cette bonne nouvelle. Puis on se dit, dans un monde connecté comme aujourd'hui, comment c'est possible? Et pourtant. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette espérance pour le monde, mais surtout de l'espérance en soi. Et on va se joindre, en fait, dans l'intercession pour prier pour que tous les peuples puissent entendre parler de l'espérance de la bonne nouvelle de Christ, tout en nous focalisant pas sur les chrétiens persécutés, mais sur les pays où il y a l'Église persécutée. Et dans OM, Opération Mobilisation, l'organisation avec laquelle je suis depuis très très longtemps, ils ont fait un petit calendrier cette année pour les familles. Et j'ai trouvé ça assez chouette, c'est le calendrier de l'Avent. Et puis, chaque jour, ils prennent un pays de l'Église persécutée. Et ils ont fait ça, en fait, sous forme de prendre un aspect de la culture de chaque pays. Et puis, de prier par rapport à cet aspect-là. Et c'est ce qu'on va faire. On va arriver là-dedans. Et puis ensuite, on viendra depuis l'Église persécutée à quelque chose de beaucoup plus proche, qui est de prier pour la génération Z. Si vous ne savez pas ce que c'est encore, vous allez découvrir. Et puis, si vous savez ce que c'est, vous allez vous réjouir de pouvoir faire cela. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, en fait, l'espérance? Alors, j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ce mot de l'espérance, et puis ce concept de l'espérance. Je suis parti dans le latin. Dans ma vie, j'ai fait 2 ans de latin. J'ai rien appris. Non, pas appris grand-chose, ça me dépassait complètement, et au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter le latin et d'aller faire de la confiserie, ce qui m'a beaucoup plus... Mais le mot en latin, c'est spero, ça veut dire attendre, ça veut dire attendre quelque chose que l'on désire, d'accord? Ça, c'est juste le mot latin. Après, il y a l'Ancien Testament, il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Il y a le mot batak, qui est un état de tranquillité, ou de tranquille sécurité. Waouh! Et je me suis dit, ça, c'est incroyable, ça. Batak. Un état de tranquille sécurité. Et dans un monde qui est en feu partout, l'espérance nous donne cet état intérieur de tranquille sécurité. C'est incroyable, hein? Quand on pense à ça. C'est la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Il y a un autre mot qui est utilisé, c'est sabar, ce qui veut dire examiner, puis faire confiance ou compter dessus ce que j'ai examiné. Ça va se passer. Ensuite, il y a un autre mot qui est lakal, qui veut dire attente, et puis tikva, qui est un mot qui parle d'espérance, d'attente, mais qui est en tension aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore là, que j'attends, que je sais que ça va se passer, et il y a beaucoup de patience, en fait, ferme dans cette tension, d'endurance. Il y a tous ces aspects qui sont mélangés dans ce mot tikva. Et puis ensuite, il y a le Nouveau Testament, là je vous l'ai fait court, hein, d'accord? Parce qu'on pourrait développer chacun de ces mots, etc. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé, c'est « elpis », et qui est un mot qui veut dire attente, espoir placé en quelqu'un, patience, compter sur, et dans le Nouveau Testament, c'est compter sur la gloire de Dieu, on a beaucoup chanté de ça ce soir, compter sur le retour du Seigneur, compter sur la vie nouvelle en Christ, compter sur la résurrection, compter sur l'attente de l'héritage que Dieu nous a promis. Et si vous ne savez pas quoi méditer pendant cette saison de l'Avent, vous en avez un petit paquet. Je vous encourage à aller voir, parce que toute cette saison de l'Avent, c'est en fait l'attente, c'est l'espérance de ce Sauveur qui est promis et qui tout à coup, à Noël, débarque. Waouh, intéressant, hein? On puisse voir tout ça ensemble. Donc voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce que signifie l'espérance, on pourrait aller beaucoup plus loin avec ça. Mais il y a 3 facteurs, en lisant, en préparant, qui ont retenu mon attention. Et hop là, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà, ça va beaucoup mieux quand on va dans le bon sens. 3 facteurs de l'espérance chrétienne selon le Nouveau Testament. Tout d'abord, il y a le contenu de l'espérance. L'espérance, c'est pas quelque chose d'égocentrique, c'est pas juste pour moi, c'est pas « oh, je vais recevoir mon cadeau à Noël ». Non, l'espérance, c'est centré en Christ, sur Christ et en Dieu. Son cœur se trouve non pas dans la bénédiction que moi je vais recevoir, ou que les chrétiens vont recevoir, que le croyant va recevoir, mais dans le règne universel de Dieu qui sera tout en tous. Ça, c'est le contenu de l'espérance. Ensuite, il y a le fondement de l'espérance. L'espérance ne se fonde pas sur des bonnes œuvres, ni sur la loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir mettre en route, mettre en pratique. L'espérance du Nouveau Testament, elle est fondée sur l'œuvre de la grâce de Dieu. Sur cette œuvre qui est entreprise et réalisée en Christ. Et puis, il y a la nature de l'espérance, qui revient un tout petit peu avec ce fondement. L'espérance est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler pour, c'est un don qu'on reçoit. C'est le don du Père de toute grâce. Alors voilà, on pourrait faire déjà 4 ou 5 dimanches juste sur ces quelques pensées que je vous ai partagées maintenant. Mais ce n'est pas le but. Voilà. Mais Dieu est appelé notre espérance et le Christ n'est pas étranger à la communauté de l'espérance. Dans l'espérance, dans l'Évangile, on reconnaît le crucifié, le ressuscité. Et cette présence, en fait, qui est connue et reconnue par son esprit. Cette espérance, elle est placée, tournée vers le futur de celui qui est déjà venu. Intéressant, hein ? Il est déjà venu, mais on place notre espérance dans le futur, de ce qui va revenir. Et par le don de son Fils unique, Dieu nous accorde cette certitude qu'il donnera toutes choses avec lui. Christ ressuscité comme les prémices de la moisson, nous aussi nous ressusciterons. Et ça, c'est quelque chose qui, je fais juste un tout petit lien avec l'Église persécutée, c'est quelque chose que les chrétiens persécutés peuvent nous apprendre et dont on doit apprendre de leur part. Parce qu'ils sont leurs yeux fixés sur ça. J'avais quelqu'un qui me disait dans un débriefing, nous, la persécution, c'est normal. Ça fait partie de notre vie. Et on ne se fixe pas avec nos yeux là-dessus. On sait que ça fait partie de notre vie. Par contre, l'espérance, la résurrection, waouh, ça c'est où on a notre regard qui est fixé. Incroyable, incroyable. On a tellement à apprendre de leur part. C'est une espérance qui est suscitée par le message du salut, par lequel on est illuminé, par lequel on voit ce qu'on ne voyait pas. Et cette espérance, elle nous unit en fait avec tous ceux qui ont été appelés. Et c'est là que je crois qu'on a beaucoup à vivre en communauté, en fait, parce qu'il y a des fois où on va être désespéré. Il y a des fois où on va remettre en question un petit peu cette espérance. Et on a besoin, en fait, du corps de Christ pour nous encourager et pour être unis à cette cohorte, en fait, de gens, ceux qui nous ont précédés, et puis ceux qui viennent après nous, et puis tous ceux qui font partie, en fait, de cette espérance en Christ. Alors, je vais faire une petite transition à partir de là. Et puis, vous savez que j'aime bien impliquer les gens. Donc, je vais vous faire réfléchir un tout petit peu. Pour moi, l'espérance, c'est. Et je vous donne 30 secondes juste pour laissez cette question ou cette début de phrase travailler dans vos esprits, dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos pensées, et puis vous regardez qu'est-ce qui vient, en fait. Pour moi, l'espérance... Je ne vous donne pas beaucoup de temps pour qu'on puisse travailler avec les premières choses qui viennent. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Pour moi, l'espérance. Puis je vous invite à le dire, simplement. La résurrection avec Jésus. La vie. Dieu. Les promesses de Dieu. Mise en place du royaume selon l'évangile. Indispensable. Une ancre de l'âme. Belle image. Encore d'autres ? Royaume de Dieu. Il n'y a pas de réponse fausse, hein ? Okay, c'est ce qui est cool avec Dieu. C'est qu'il nous accueille avec ce qui est, ce qu'on a, ce qui est là. Non. Pardon ? Le retour de Jésus.
Lié à la confiance.
Lié à la confiance.
Okay. Pour moi, l'espérance, c'est possible.
C'est possible. OK. Wow. Oui. Certitude qu'il est toujours avec moi. C'est beau, hein ? On pourrait passer une heure juste à faire ça. Alors je vais vous mettre un petit peu des choses que j'ai moi réfléchi et puis d'autres que j'ai entendues sur le prochain slide. L'espérance, un don de Dieu, le salut promis par Dieu, un roc solide sur lequel s'appuyer. Une promesse. Quelqu'un a dit un sourire sur un visage. Il s'est livré pour moi. Savoir que la victoire sera du bon côté. Choisir d'avancer malgré l'incertitude ou l'adversité. La vie éternelle. L'espérance ne déçoit pas. Petite lumière au bout du tunnel. Certitude que le bien a gagné. Appel à la vie. Lié à l'amour. Lié à l'avenir. On ne peut pas vivre sans. Et ça, c'est un truc qui m'a pas mal travaillé, en fait. Parce que je travaille quand même pas mal avec des gens qui perdent l'espérance, qui sont dans le désespoir. On ne peut pas vivre sans l'espérance. C'est impossible. Si on vit sans l'espérance, ça nous amène où ? À l'amour. Hein ? Oui. Romains 12:12 nous dit que c'est une attente joyeuse. 1 Thessaloniciens 5:8 nous dit que l'espérance donne courage, force. Elle protège l'homme intérieur tel le casque qui protège la tête. Et puis dans Hébreux 6, 18, on revient avec ce que tu disais, Pierre. Comme le navire est sûr lorsqu'il est ancré, ainsi notre vie est assurée par l'espérance qui nous lie au Christ, notre souverain sacrificateur qui a déjà pénétré dans le sanctuaire. Ça, c'est cet ancre. Hein ? Incroyable, incroyable. Et puis il y a cette petite phrase dans Hébreux qui est peut-être venue à votre esprit. Hein, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et je vous donne encore quelques versets, simplement que j'ai pris un peu en vrac parce que c'est un sujet tellement vaste dans la Bible. Il y a beaucoup dans les proverbes. Hein. De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée, ne pourra pas être déçue, si on met un autre mot que brisée. Ensuite, il y a Éphésiens. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.
Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Un Corinthien,
il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
Qu'est-ce que ça a à voir avec l'espérance, tout ça? Je pense qu'il y a pas mal là-dedans. Hein,
un Dieu qui espère, qui pardonne, qui... Wow. Ensuite, il y a Corinthiens. Un Corinthien. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance.
Vous voyez ce repos de l'âme dans l'espérance.
Et puis le psaume qui remet une petite couche là-dessus. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux.
C'est violent, hein, les psaumes, c'est... Ah, même le psaume que tu lisais au début, là, oh.
Ben, c'était toi qui lisais, là. Non, c'était toi, hein, Valérie. Tu te dis, waouh. Et puis, voilà un autre. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et ma prière, c'est qu'on puisse, pendant ce temps de l'Avent, pendant ce temps aussi de Noël, pendant toute cette saison dans laquelle on rentre maintenant, qu'on puisse trouver cette espérance, qu'on puisse la chercher, qu'on puisse s'appuyer dessus, qu'on puisse la communiquer, la témoigner à d'autres. Et pour cela, je vais vous inviter à entrer dans ce temps de prière. Je ne voulais pas faire un long message, mais juste donner une base, un fondement un petit peu solide aussi, qui est là par rapport à cette espérance, hein, qu'on a. Et puis, ça va plus. Donc, si tu peux juste presser le machin, là, monsieur, merci beaucoup. Si tu arrives à mettre la prochaine slide. Parce que là, il n'y a plus rien. Voilà, le dimanche de l'Église persécutée. Donc vous avez déjà, si j'ai compris juste, j'étais loin toute la semaine, mais j'ai compris, vous avez déjà utilisé un petit peu l'Église persécutée la semaine passée, en tout cas ça a été mentionné. Donc mon cœur, c'est vraiment qu'on puisse prier pour des pays maintenant, où c'est qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas cette espérance. Et voilà, on va passer un petit moment dans la prière. On va faire des petits groupes. Ça, c'est les pays que j'ai choisis. En fait, il y en aurait eu beaucoup d'autres. J'ai choisi le Soudan, un pays dont on parle beaucoup trop peu dans les médias, mais où il se passe des choses horribles et terribles, où des millions de Soudanais ont dû quitter leur foyer à cause de la guerre, et c'est une guerre qui est horrible, qui dure. Là, on en a juste le top de l'iceberg, hein, mais ça dure depuis des années. Et là-dedans, en fait, dans cette réalité de cette culture soudanaise, de ce pays du Soudan, j'aimerais vous inviter pour qu'on puisse prier pour qu'ils trouvent un refuge sûr auprès de Dieu. Et j'aime beaucoup, en fait, comme ils ont préparé avec tous ces pays, c'est le seul sujet de prière qu'il y a pour ce pays. Vous imaginez que c'est aussi fait pour des familles, avec des petits-enfants. Ils vont comprendre ça. Hein. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui auront à cœur de prier pour le Soudan, un endroit où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de gens déplacés, que les gens puissent trouver un refuge sûr auprès de Dieu, et de prier aussi pour la paix dans ce pays. La Somalie, ou les Somaliens, c'est des gens qui aiment beaucoup partager des histoires. Une peuplade où ils racontent des histoires, où ils aiment être assis ensemble, où c'est de la communication, simplement, pas en lisant des livres, on va s'asseoir avec les vieux du village, avec les chefs, et puis ils racontent des histoires. Et c'est comme ça que beaucoup, beaucoup s'apprend en Somalie. Et on va prier, en fait, pour la Somalie, pour qu'ils puissent entendre que Jésus est venu pour eux aussi.
D'accord ? Et vous pouvez prier pour, si vous connaissez des missionnaires, ou prier pour les missionnaires qui sont là-bas, mais aussi pour les chrétiens, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Priez pour qu'ils aient le courage de raconter, parce que ça fait partie de cette culture. Ensuite, il y a les Érythréens. Eux, on les connaît plus au niveau des Jeux Olympiques, qui sont connus pour leur passion, pour le cyclisme, pour la course de fond, surtout pour la course de fond, je pense, les 5000, 10000, les marathons, demi-marathons et tout le reste. Et dans cette culture où il y a ça qui est dedans, où c'est quelque chose d'important pour eux, de prier en fait pour qu'ils placent leur espoir en Jésus et qu'ils poursuivent leur chemin vers ce but ultime. Ça va demander de la discipline, ça demande de l'exercice, ça va demander tout ça pour grandir. Mais prenez, puis rappelez-vous en fait, l'Érythrée, ils aiment bien la course, waouh, on va prier pour qu'ils puissent, comme Paul, courir, aller jusqu'au but, foncer, avoir la discipline, transpirer. Mais ce but ultime, ce n'est pas de gagner un marathon, c'est le royaume des cieux. Le Mali, une longue histoire au Mali marquée par de grands empires. Et là, pour ce pays, ça sera de prier pour que les Maliens entendent parler de Jésus et qu'ils placent leur espérance dans le royaume éternel. C'est un autre empire, hein ? Un empire d'amour, un royaume d'amour, un royaume éternel. Et ben voilà, qu'ils puissent entendre parler et puis placer leur espérance dans ce royaume de Dieu. Et l'Afghanistan, la plupart des personnes qui vivent en Afghanistan n'ont jamais connu la paix dans leur pays. Et on va prier en fait pour que Dieu mette fin à la violence, mais apporte surtout sa paix à lui dans ce pays. Donc je vous propose qu'on fasse des petits groupes de 4, 5, 6, c'est égal pour moi, mais pas des trop grands groupes, qu'on ait vraiment un bon paquet de prières qui montent vers le Seigneur. Puis vous piquez un ou deux, d'accord ? Et puis on va prier en fait pour ces différents pays. Et puis ensuite, on priera encore ensemble pour la génération Z.